Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau carnet de région, votre magazine d'actualité régionale proposé par plusieurs radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon avec 48FM qui en assure la rédaction en chef. Au sommaire de cette édition, nous irons tout d'abord faire un tour au Pôle emploi de Castelnaudary dans l'Aude qui a proposé un recrutement de cuisiniers de manière pour le moins atypique. Politique avec le sénateur maire UMP de Béziers Raymond Couder qui a profité du sommet franco-espagnol à Madrid pour interpeller le chef de l'État et ce afin d'accélérer les travaux de la ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan. Le désert médical dans les campagnes françaises est indéniable et parfois les freins ne viennent pas forcément de là où l'on s'attend. Drôle d'histoire que nous allons retrouver dans ce carnet de région. Carnet de région où il sera également question de mutualisation de la ressource en eau du côté de Gignac et de vente de terrain à Montpellier.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croustillon.
Et on ouvre ce magazine avec une initiative bonne pour l'emploi au Pôle emploi de Castelnaudary. Un concours de cuisine pour recruter des candidats à des emplois dans la restauration. Un secteur un peu décrié et qui continue à recruter malgré la crise. Nicolas Cazero, responsable d'équipe en hôtellerie et restauration au Pôle emploi de Castelnaudary, au micro d'Éric Boyer de RCF Pays d'Aude.
C'était un moyen de pouvoir mettre en adéquation ce qu'on appelle l'offre et la demande. C'est-à-dire que dans la restauration, on a une pénurie de main-d'œuvre dans ces métiers-là. Donc c'est une façon un petit peu originale et novatrice de rechercher des demandeurs d'emploi et de les amener vers ces secteurs de l'hôtellerie-restauration.
Comment ça s'est développé ce projet finalement ?
Ce qu'on a voulu mettre en place, c'était en fait deux sessions qu'on appelle MRS, la méthode de recrutement par stimulation, qui est un exercice de Pôle emploi. On a prescrit, on va dire, des demandeurs d'emploi qui n'avaient jamais travaillé dans le secteur de la cuisine et qui, justement, étaient volontaires et motivés pour aller vers ces métiers-là.
Qu'est-ce qui fait que les gens n'y vont pas et pourquoi, là, ils décident d'y aller ? Qu'est-ce qui a fait le déclic ?
Il y a des opportunités de recrutement qui sont importantes. Rien qu'en Languedoc-Roussillon, c'est plus de 12 000 offres par an. Aujourd'hui, face au contexte économique, c'est pas négligeable. Je pense que les gens y ont bien réfléchi. Et voilà, ils ont pesé, on va dire, le pour et le contre, puisqu'il y a aussi des avantages dans ces métiers-là, hein, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quand même 2 jours de repos consécutifs, il y a une mutuelle de branche, hein, il y a un salaire qui, généralement, est quand même supérieur au SMIC, voilà. Donc, en pesant le pour et le contre, maintenant, on arrive à trouver des gens motivés pour ces métiers-là.
Et ce concours de cuisine d'un nouveau genre, initié par Nicolas Cazero, que l'on vient d'entendre, est une première en France. L'opération pourrait être renouvelée ailleurs très bientôt dans la région. Il manque 130 km de voies ferrées à grande vitesse dans la région. Et à l'occasion du sommet franco-espagnol qui se déroulait la semaine dernière à Madrid, le sénateur maire UMP de Béziers, Raymond Couder, a interpellé le chef de l'État pour demander l'accélération des travaux de la ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan. L'élu biterrois demande au président de la République que ces travaux deviennent une priorité. Raymond Couder au micro d'Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault.
Mais je lui dis que dans le cadre des relations franco-espagnoles, qu'ils comprennent qu'on ne peut pas laisser ce tronçon de LGV Montpellier-Perpignan comme un trou noir sur le trajet Amsterdam-Séville, mais qu'il faut que ces 130 km soient réalisés, qu'actuellement c'est un véritable défi à l'intelligence que de reporter à après 2030 un petit tronçon comme ça qui est loin de coûter le plus cher, alors qu'on sait le coût que ça va être entre Lyon et Turin et que la France est en train de s'engager avec l'Italie dans ce projet. Finissons d'abord le plus simple et puis ensuite on verra pour le plus compliqué.
Même si les caisses sont vides ?
Mais vous savez, les caisses sont vides aussi bien pour Montpellier-Perpignan que pour Lyon-Turin. Alors pour Lyon-Turin, il semble qu'on va trouver l'argent. Et beaucoup plus. Donc au moins terminons ce petit tronçon. Alors qu'il va y avoir très prochainement une saturation du réseau entre Montpellier et Perpignan. Il faut absolument que ces 130 km soient réalisés. Et bien sûr, vous pensez bien que les Espagnols qui ont fait tous les aménagements de leur côté, aujourd'hui sont en attente de notre décision.
Et même s'il manque encore un tronçon sur cette ligne à grande vitesse, le premier TGV Paris-Barcelone sera inauguré le 15 décembre prochain. Un trajet effectué pour l'instant en 6 heures et 25 minutes.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gare.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gare.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
L'Ordre des médecins ou Conseil de l'Ordre, tout le monde connaît, de nom tout du moins, cet organisme chargé de défendre et réguler les professions médicales. Mais quel est son véritable pouvoir? Une question que l'on peut se poser quand on écoute la mésaventure qu'a connue la pédiatre Nathalie Burger, pédiatre au Crèze près de Montpellier. Elle explique au micro de Rémi Goujon, de Radio Escapade.
En effet, moi je suis pédiatre sur le Crèze et j'habite donc à 40 km de mon cabinet actuel. Et donc et j'ai beaucoup de patients qui viennent de l'arrière-pays nord de Montpellier. Donc je trouvais intéressant comme projet et ça m'avait d'ailleurs été un petit peu incité par certains patients qui me disaient mais est-ce que vous avez pas le projet de vous installer plus près? Et donc du coup, j'avais émis l'idée de pouvoir installer en effet un cabinet sur Ferrières-les-Verreries. J'avais même pas annoncé mon cabinet, que les consultations étaient déjà remplies sur des journées entières, donc il y avait une demande évidente. Et en fait, de façon tout à fait incompréhensible, quand j'ai fait ma demande d'autorisation d'ouverture de cabinet secondaire au Conseil de l'Ordre, ma demande a été refusée en expliquant qu'il n'y avait pas de service rendu à la population en m'installant dans un village de 65 habitants. Évidemment que je n'allais pas servir que 65 habitants de mon village. Je suis montée au national, au Conseil de l'Ordre national, qui m'a également refusé ma demande en invoquant le fait qu'il y avait assez de pédiatres à Ganges pour assurer toute la pédiatrie du nord de l'Hérault, ce qui est complètement faux, puisqu'il y avait deux pédiatres et demi à l'époque qui ne travaillaient que maximum un seul par jour, donc pour assurer une population pédiatrique en calculant sur les données de l'INSEE qui étaient plus de 18 000 enfants sur un secteur simplement de 25 km autour de Ferrières, il est évident qu'il y avait du travail pour tout le monde et que le service rendu à la population était plus qu'évident. Donc j'ai fait une plainte contre le Conseil de l'Ordre qui m'a été même refusée. Ils ont refusé d'instruire ma plainte en disant que je me bornais à demander un cabinet secondaire. Donc il y a des choses qu'il faudra peut-être un jour mettre en lumière et que le Conseil de l'Ordre devra peut-être un jour justifier.
Voilà, et c'était un sujet de Rémi Goujon de Radio Escapade. La ressource en eau est au cœur d'une convention signée entre la communauté de communes Vallée de l'Hérault, l'Agence de l'eau et le Conseil Général. Pour faire face à des besoins de plus en plus importants et anticiper d'éventuels problèmes de qualité, on réfléchit même dans certains endroits à une mutualisation de la ressource. C'est dans ce contexte que le projet de la combe salinière à Gignac peut être une solution pour des communes qui puisent actuellement l'eau dans la nappe alluviale du fleuve Hérault. On revient sur cette démarche avec le maire de Gignac, Jean-Marcel Jauvert, au micro d'Alain Mendez de Radio Lodev.
Il faut savoir que depuis 1862, on puisait déjà dans la nappe alluviale de l'Hérault au lieu de la Meuse. Donc effectivement, compte tenu de l'évolution de la réglementation, compte tenu des difficultés rencontrées dans la gestion de l'eau, il a été nécessaire d'effectuer de nouvelles recherches. Et nous avons la chance d'avoir une ressource exceptionnelle. Nous devrions là satisfaire les besoins de très nombreuses années. Et à partir effectivement de l'importance de la ressource, nous avons éventuellement envisagé une mutualisation avec les communes voisines afin d'assurer la sécurité par une interconnexion et éviter donc les difficultés en cas de pollution et de problèmes très graves. Après, donc, il reste quand même des étapes à franchir. Hein. Réfléchissons, faisons preuve de sagesse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Gignac quand même est préservé, donc, puisque cette ressource est largement suffisante et nous permettra de satisfaire les besoins de la population. On a la possibilité de puiser 5000 m3 jour. C'est l'équivalent à peu près de la satisfaction des besoins d'une population de 25 000 habitants. Donc vous voyez qu'il y a une marge de manœuvre qui est quand même importante. Et à court terme, ce qu'on souhaiterait, c'est l'interconnexion avec la commune importante voisine pour sécuriser, j'insiste sur le terme sécuriser, parce que les risques de pollution sont des risques réels. Et puis, il y a la rareté de l'eau. Donc, à terme, il faut s'interroger sur une gestion efficace, très économe, on va dire, de cette ressource.
Et donc, ce projet qui arrive au bon moment, c'est celui de la combe salinière sur le massif de la Taillade. Un projet long, coûteux, qui est en train de se mettre en place.
Donc, la combe salinière, effectivement, s'organise par étapes. Et nous avons essayé de phaser compte tenu de l'importance du coût, puisqu'il était évalué au départ à 6 millions d'euros. Ce n'est pas une mince affaire pour une population de 6 000 habitants. Donc déjà, nous avons réalisé la station de pompage, et maintenant, on va penser donc à l'usine de potabilisation, plus après, effectivement, la mise en place des réseaux et d'un réservoir. Donc on a un petit point d'interrogation pour l'instant au niveau du réservoir, puisque nous sommes en phase d'expropriation, parce que c'est toujours très difficile d'avoir un terrain qui soit bien situé, avec une altitude suffisante, etc. Et il faut toujours négocier et se battre. Donc je pense qu'on aboutira aussi dans de bonnes conditions. On est près du but.
Ça veut dire que le prix de l'eau peut être amené à augmenter beaucoup ou pas dans les prochaines années ?
Non, je pense que pour Gignac, c'est la stabilisation, donc on n'a pas d'inquiétude démesurée. La répercussion du coût de l'investissement, dans la mesure où il y a mutualisation, pourra éventuellement être répartie sur la totalité de la population. Il ne faut pas, là aussi, écouter les rumeurs. Il n'y a aucune difficulté, ni aucune augmentation envisagée pour l'avenir.
C'était donc un sujet d'Alain Mendez, de Radio Lodève.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
La famille Colbert possède le château de Flaugergue à Montpellier, tout près d'Odysseum, mais aussi 30 hectares répartis sur la ville. Des terrains convoités dans une ville qui s'agrandit. Du coup, ils se sont associés à un fonds belge, le fonds Cetim, pour voir ce qu'il était possible d'en faire. Ils ont formé une société baptisée Flaugergue Aménagement. Et pour Henri de Colbert, c'était une nécessité. Il est au micro de Maude Bourquenet.
J'avais plus de 40 ans qu'avec mon épouse, on s'occupe du château de Flaugergue, de l'ensemble qu'il représente. On a fait un choix difficile dès le début, puisque j'ai quitté toute autre activité pour être ici à temps plein et pour essayer d'exploiter ce patrimoine dans le bon sens. C'est-à-dire qu'avec un château et quelques hectares de vignes, on a créé une vingtaine d'emplois qui fonctionnent depuis 30 ans même maintenant. On continue à avoir un vignoble, on fabrique le vin, enfin on engendre le vin, parce que le vin ne se fabrique pas, il est engendré dans l'amour. Ensuite, on a une activité de restaurant qui a été aménagée sur place depuis maintenant 3 ans. Ensuite, on a une activité de réception, de réunion, mariage, manifestation, séminaire, etc. Et enfin, une activité de visite. Et puis, à destination de nombreux publics, que ce soit des enfants, des vieux, des jeunes, etc. Donc, tout cet ensemble d'activités nécessite, pour être mis au point, une fois encore, la mise en place d'outils, à la fois immobilier et aussi en personnel, qui représentent des sommes très importantes d'investissement à faire. Voilà, maintenant, si on veut que cela continue dans des conditions à peu près normales, mais il faut investir. Donc, ce que nous avons fait avec mon épouse, c'est-à-dire 40 ans de travail sans salaire, sans revenus, sans vacances, aucun de mes enfants ne veut le faire, il a bien raison, et aucune autre personne salariée à qui nous confions ces missions ne veut le faire non plus. Donc, il faut trouver des ressources suffisantes pour que cela puisse fonctionner correctement, tout en assurant un service culturel et un équilibre à trouver entre les charges, les revenus, les ressources, les investissements, etc.
Et justement, du coup, avec ce fonds belge, vous allez prévoir des projets sur ces hectares, expliquez-moi.
L'idée avec ce fonds belge, c'est d'avoir quelques moyens, ne serait-ce que pour faire des études, et puis voir sur ces 30 hectares si on peut manger des emplacements stratégiques dans la ville de Montpellier, qui sont en bordure de l'avenue Mendès-France, qui sont d'autres endroits aussi, correspondent à des besoins et des attentes des responsables des collectivités ici, que ce soit la ville ou l'agglomération ou même le département ou région. Voilà, donc il faut qu'on puisse prévoir des aménagements, les organiser, les étudier et effectivement, à un certain moment, céder des terrains à un prix convenable nous permettant de faire les investissements nécessaires pour la survie de Flaugergue.
Éventuellement, il y a un premier projet de résidence pour seniors ?
Alors, il y a un premier projet de résidence pour seniors, oui, qui... Pour compliquer les choses, c'est un projet qui aurait dû se faire à l'entrée de Flaugergue à gauche, c'est-à-dire à l'est quand on arrive à Flaugergue. Mais la DRAC ne souhaitait pas qu'on construise sur cette parcelle, donc elle m'a obligé de faire cette résidence sur le parking existant. Du coup, il faut trouver un autre endroit pour faire un parking, et ce qui n'est pas non plus simple, et qui représente aussi des dépenses importantes. Donc cette résidence va se faire si on arrive à générer des recettes au moins égales aux dépenses qu'elle engendre elle-même pour la place qu'elle maintient ou qu'elle retient dans la ville.
C'était un sujet de RCF Maglonero et Maude de Bourquenet. La semaine prochaine, pour le dernier carnet de région de l'année, 48FM laissera la place à Radio Margeride. Et en attendant, je vous souhaite une bonne et agréable semaine.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en langue de Croussillon.